Alors, ce matin, j'espère que vous avez apprécié jusqu'ici la série sur la croix. On a exploré plein de choses et puis là, on termine ce matin sur ce thème de la croix. Non pas qu'il n'y aurait pas eu d'autres choses à dire, il y aurait eu plusieurs choses à dire, mais ce matin, on met un terme à cette série-là. Et la semaine dernière, si vous avez été là, on a vu deux images, hein? Deux images qui nous permettent de comprendre qu'est-ce que Dieu a fait à la croix. On a vu cette image-là que Christ a payé ma rançon. J'étais comme en kidnapping et puis Christ est venu payer une rançon tellement chère qu'il me montre à quel point il m'aime. Christ a payé ma rançon. On parle de la rédemption. On a vu aussi que Christ a été le sacrifice parfait qui détourne le jugement, la colère de Dieu et qui était sur moi. Et ce matin, on va voir deux autres images qui vont nous permettre de comprendre ce que Christ a accompli à la croix. Et puis là, peut-être vous dites, « Ah, les deux premiers, je n'étais pas là, je ne pouvais pas. » Bien, ça tombe bien sur YouTube, Facebook ou les podcasts, vous êtes capable de rattraper ça cette semaine. Parce que justement, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe à la croix. C'est important de comprendre qu'est-ce que Jésus a accompli. Puis je crois que plus on comprend ce que Jésus a accompli, ce grand mystère de la croix, et plus ça nous rapproche de son cœur. Parce que plus on découvre ce qui est dans son cœur, le pourquoi qu'il a fait les choses. Et honnêtement, je pense que c'est une riche bénédiction. Alors, la semaine dernière, on a parlé que la croix parlait fort. C'est-à-dire que même sans mots, la croix parle fort. Et cette semaine, on va parler de ce que Jésus déclare sur ta vie à la croix. Qu'est-ce que Jésus a déclaré sur ta vie en étant accroché sur cette croix, en étant accroché sur ce bois? Et puis, on va commencer dans Galates 2. Si vous voulez tourner avec moi, Galates 2 et au verset 16. Et s'il y a quelqu'un qui sait, et sont où les bouteilles d'eau, quelqu'un de l'équipe qui pourrait aller m'en chercher une, ça serait fort apprécié. Et puis, je vois déjà quelqu'un à l'arrière. Merci Claude. Si je veux toffer jusqu'à la fin, mais là, pendant ce temps-là, vous vous êtes en train de chercher Galates 2, n'est-ce pas? Ah, ben non, vous l'avez sur l'écran. Ah, des fois, c'est bon de vérifier, hein? Des fois, c'est bon de vérifier dans sa Bible et de l'avoir pour ceux qui sont visuels, proches des yeux, près du cœur, hein? OK, ça va comme suit. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste. Mais c'est au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Alors, merci Claude, je sais que tes œuvres ne te rendent pas plus justes, mais certainement plus aimables. Merci beaucoup. Amen. OK. Alors, le thème théologique de cette image-là, tu sais qu'on parle de juste, dans ce texte-là, trois fois ça dit, vous allez être juste au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et le terme qu'on utilise souvent pour ça en théologie, c'est l'idée de la justification. Là, vous dites, bon, OK, un terme théologique, on ne comprend rien. Non, je vais vous l'expliquer, puis je vais même faire une image, parce que, vous rappelez, on est passé la semaine dernière d'une image qui était dans un culte, dans le sanctuaire. On est passé dans un aspect du monde des affaires avec une transaction financière sur notre rançon. Et puis là, aujourd'hui, on se transporte en cours de justice. Alors, voyez un peu l'image. Je vais essayer de l'imager pour qu'on puisse bien comprendre. Alors, sur le banc des accusés, jeune homme, toi et moi, un des deux, ça va? La loi en vigueur, c'est la loi de Dieu. Ce n'est pas la loi de l'Ancien Testament, c'est la loi de Dieu. Et le verdict, c'est que la loi prévoit des conséquences si on enfreint la loi. Ça va? Jusque-là, c'est une cour de justice, tout ce qu'il y a de plus normal. Alors là, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ceci. OK? Alors, le juge se lève, s'assoit, et puis il dit, « Monsieur, madame, vous êtes accusé de nombreux chefs d'accusation à votre dossier. J'ai ça par papier devant moi. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? » Alors, moi, toi ou quelqu'un d'autre va dire, « Ah, ben moi, j'ai essayé du mieux que je pouvais, monsieur, madame la juge. J'ai fait le bien. J'ai jamais tué personne. J'ai jamais volé un pauvre. Mais j'ai essayé de tout mon cœur. » Alors, voici la déclaration du juge suite à ce plaidoyer de vous. Alors, le juge va dire, « Merci de vos beaux efforts. Même si vous avez donné 20 $ à une veuve la semaine dernière et l'autre semaine d'avant, vous avez tout de même brûlé 49 feux rouges, vous avez fait 1123 excès de vitesse, je compte 49 conduites dangereuses à votre dossier, 26 délits de fuite et irrespect auprès d'un membre des forces de l'ordre au nombre de 3117 fois. Alors, le juge continue en disant, « Mon verdict est donc coupable et peine à ne plus jamais conduire de véhicule de toute votre vie. Peine de prison, perpétuité, en tant que récidiviste chronique à la loi de Dieu. » Alors, le jugement est là. On est là et on entend ça en disant, « OK. » C'est pas mal d'excès de vitesse, c'est pas mal de conduite dangereuse, c'est pas mal de tout. Et là, il y a une interruption dans la séance de cours. Et là, il y a quelqu'un qui rouvre la porte. Et là, vous avez peut-être vu ça dans des épisodes ou dans des films. Tu sais, les deux grosses portes en bois dans le fond de la salle. Et puis là, il y a quelqu'un qui rouvre les portes avec des bruits de pas parce qu'il était en retard, il n'avait pas pu prendre son café. Vous avez déjà vu ça quelque part? Vous avez l'image? Ça va? Et puis là, rentre en pleine séance de cours. Et cette personne-là, court jusqu'à la petite clôture qui est juste qui fait en sorte qu'on ne peut pas aller voir le juge. Et il s'arrête juste au bord et dit, « Excusez-moi, monsieur le juge, il y a quelque chose qui n'a pas été pris en compte. » Alors là, tout le monde regarde. « Il y a quelque chose qui n'a pas tenu en compte concernant l'accusé. En fait, monsieur, madame l'accusé a fait confiance, il a placé sa confiance en Dieu. Il a placé sa foi en Dieu. Et j'aimerais vous mentionner, monsieur le juge, que sa peine a déjà été purgée dans son entièreté par moi-même, monsieur le juge. Sa conséquence de mort, c'est moi qui l'ai endurée. Il n'a donc rien à repayer pour l'ensemble de ses méfaits. » Alors le juge regarde un peu tout le monde. Bien que l'accusé soit coupable de tous les chefs d'accusation présentés ici, sa peine étant maintenant complètement purgée, je déclare monsieur ou madame juste non coupable. Amen. Vous êtes libre, monsieur ou madame l'accusé. Ça, c'est ce qu'on appelle l'idée d'être justifié. Et là, on peut dire, waouh, waouh. Non, pas pire? Franchement, les dés étaient faits jusqu'à ce que Jésus entre dans l'histoire avec la croix. Et il y a quelque chose qui est important de comprendre, en fait, deux choses importantes de comprendre. La première, c'est que la justification, c'est Dieu qui dit non coupable. C'est Dieu qui déclare qu'une personne est juste, non coupable. Mais quand Dieu justifie un pécheur, il n'est pas en train de dire « Cette personne-là qui avait commis des méfaits, finalement, c'est une bonne personne. » Il n'est pas en train de dire qu'une mauvaise personne est tout d'un coup une bonne personne. Il est en train de dire qu'une personne qui a commis toutes ces fautes-là, la peine a déjà été complètement payée. C'est-à-dire que la personne n'est pas non coupable parce qu'on fait du mutisme ou on se ferme les yeux sur tous les excès de vitesse et tout ce que je vous ai nommé. Mais cette personne-là est déclarée non coupable parce que Jésus le justifie. Elle est libre de toute responsabilité parce que Jésus a payé sa pénalité à sa place. Amen. Amen. Et finalement, la justification, c'est la déclaration légale de Dieu comme de quoi le pécheur est en règle avec Dieu. Il est pardonné. Et comme le texte de Galates 2 le dit, est-ce que notre justification provient de nos bonnes œuvres? Votre 20$ à la veuve, puis à l'autre semaine d'avant, est-ce que c'est mal? C'est très bien. C'est très bien. Et c'est pour ça que des fois, les gens sont confus en disant, « Oui, mais là, tu sais, il y a des gens qui connaissent pas Jésus, mais ils sont des super bonnes personnes, ils font le bien, ils essayent de leur mieux, ils sont bien intentionnés. » Oui, mais... Ça, c'est une partie de l'histoire. Mais quand je vous ai raconté les méfaits sur la route de cette personne-là, est-ce que ça compense? La réponse, c'est non. Puis en fait, la réalité biblique, ce qu'on apprend dans le texte, c'est qu'il n'y a aucune bonne action qui pourrait compenser le reste. la liste incroyable de trucs qu'on a fait con Dieu finalement. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin, pas juste de dire « je veux devenir une bonne personne », on a besoin d'être déclaré non coupable parce qu'honnêtement, on l'est coupable. Vous comprenez? Même si tu as donné 100$ plutôt que 20$, c'est pas ça le point. Le point, c'est que si on compare les deux listes, jamais personne, et Galates 2 va le dire, jamais personne ne va être justifié à cause des œuvres de la loi. Elles seront toujours insuffisantes. Mais chacun peut être justifié par quelque chose d'encore plus grand que ça, la foi en Jésus-Christ. Et lorsqu'on passe devant le juge, c'est Jésus qui, à cause de l'acte à la croix, à cause qui a payé tout, capable de déclarer sur ta vie et sur la mienne, Jésus est capable de déclarer sur ta vie non coupable. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est Christ, on n'a pas supplié à genoux, genre, « Seigneur, viens à la croix parce qu'on veut être non coupable. » Personne n'a fait ça, vous savez pourquoi? Parce que notre nature nous l'empêche. C'est l'initiative de Christ qui est venue pour permettre que nous soyons non coupables. Est-ce que c'est l'ensemble de l'humanité qui avait tellement prié que Jésus a fait « Ah, oh, j'ai pas le choix d'y aller, j'ai eu tellement de prières. » C'est comme si on envoyait 10 lettres au Père Noël, ça veut dire qu'on va avoir vraiment le cadeau parce qu'on l'a demandé 10 fois. Non, c'est uniquement l'initiative de Dieu. Et justement, un autre passage qui va aller dans le même sens, dans Éphésiens 2, verset 8, ça va dire « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. » La justification, c'est Dieu qui dit non coupable. Mais il y a une deuxième chose qu'il faut qu'on comprenne de tout ça. C'est l'aspect, on utilise le terme substitution. En fait, quand Jésus rentre en cour, il ne rentre pas juste en disant « je suis Dieu, je décide, non coupable ». Non! En fait, ce que Jésus va dire, il va dire, quand il rentre devant Monsieur le juge, il va dire « hey, c'est moi, sa condamnation, c'est moi qui l'ai faite jusqu'au dernier jour. J'ai purgé les 3 200 000 jours de prison que cette personne-là devait faire. C'est pour ça qu'il est non coupable. » Alors, il y a cette idée-là que Christ est venu en substitution à nous, c'est-à-dire qu'il a porté notre propre faute, il a porté notre propre douleur. Dans 2 Corinthiens, ça va le dire de cette façon-là, comme si la condamnation est transférée sur lui, lui qui n'avait pas péché. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, 2 Corinthiens 5, 21, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. Alors, ce que Dieu est en train de déclarer sur ta vie ce matin, c'est « Tu n'as pas besoin de purger ta peine, je l'ai faite. Tu n'as pas besoin de la purger, je l'ai déjà fait à la croix. » Et ça, c'est tout l'aspect, cette image-là de la cour qui nous déclare non coupable. Et vous aurez remarqué la chose suivante, c'est que l'ennemi de nos âmes est très bon pour attaquer ce que Christ a fait à la croix. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous êtes dans votre vie de tous les jours, peut-être même de façon très banale, et tout d'un coup, il y a une pensée spontanée qui vous vient. Voyons donc, toi, tu fais tout le temps le mal. Tu es coupable. Qu'est-ce que Dieu a à faire de toi? Une voix familière? Une voix qui nous amène vers la culpabilité, ça vous dit quelque chose, ça? Là, vous dites, « Ah, OK, je ne suis pas tout seul. » Non, tu n'es pas tout seul. Non, enfin, je te le dis, tu n'es pas tout seul. Mais l'ennemi est bon pour essayer d'attaquer exactement ce que Christ a vaincu à la croix. Et si tes pensées te ramènent toujours à une culpabilité grandissante et grandissante, que tu n'es pas capable, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, tu peux lui répondre que c'est Jésus qui m'a déclaré non coupable, ce n'est pas toi qui vas me déclarer coupable aujourd'hui. Amen. Amen. Mais l'ennemi est bon pour essayer de... Ah ouais. Ben non, Dieu a dit que tu n'étais pas coupable, mais au final, tu le sais que tu es coupable. Hein? OK. Je les ai entendus, moi aussi, ces pensées spontanées-là qui viennent du diable. Je les ai entendues plus qu'une fois. On est capable de répondre à travers l'œuvre de la croix. Amen. Amen. Alors, On passe de l'image du temple, du sanctuaire, on passe au monde des affaires, on transite par une cour de justice, et ça m'amène à ma dernière image que je veux vous partager, et c'est probablement celle qui est la plus personnelle. En fait, c'est l'image d'une maison, c'est l'image d'une famille. On va voir ensemble un passage dans Romains 5, et puis vous allez voir, nos quatre images se trouvent dans ce passage-là, dans Romains 5 et le verset 8 à 11. Si vous avez votre Bible, je vous encourage à tourner, j'entends des pages, je trouve que c'est un beau son. Hein? C'est un beau son, des pages qui tournent dans la Bible. Alors, Romains 5, verset 8 à 11. « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ça, c'est l'image de la rançon, de la rédemption. Verset 9, « Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, ça c'est la justification, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. » Ça c'est notre première image du sacrifice parfait. Et là, le verset 10 va nous amener à cette dernière image-là. « En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. » Et voici la dernière image de la croix. L'image de la réconciliation. L'image d'une relation brisée qui est restaurée. Parce que finalement, c'est l'image qui découle des autres. À cause de ces trois autres images-là, on peut avoir cette assurance-là que Dieu désire nous réconcilier avec lui. Ça parle d'une relation personnelle avec Dieu. Ça parle que tous les éléments sont en place pour un retour à la maison. Un retour dans la maison de notre Papa Céleste. Amen. Vous savez, la maison de Dieu n'est pas cadenassée à triple loquet ou triple cadenas. En fait, elle a une simple fonction pour y accéder, c'est la foi. Et la foi, ça ne peut pas être plus simple que ça. La foi, c'est de placer sa confiance, placer sa foi dans l'œuvre de Jésus. Et Dieu se révèle dans cette image-là comme un père qui attend le retour de ses enfants à la maison. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont... moi, mes enfants sont encore ados et pré-ados. Donc, il n'y a pas une question de partir loin, en tout cas, pas pour le moment. Puis on remercie le Seigneur pour le temps qu'on peut passer avec eux. Mais il y a des gens ici que peut-être vous êtes plus vieux que moi, là, en âge, en expérience. Et puis vous avez vu des enfants partir loin. Des enfants partir... des fois, pas toujours pour les bonnes raisons. Et vous avez peut-être vu, à un moment ou à un autre, un instant où est-ce que fiston que je n'avais pas parlé depuis 2 ans vient cogner à la porte ou appelle sur le cellulaire ou fait signe de vie alors qu'il n'en donnait pas avant. Et il y a cette image-là dans cette idée de la réconciliation qui est un peu cette image du père qui attend bras grands ouverts que fiston ou notre fille bien-aimée revienne dans les bras de son papa, revienne dans la maison, revienne près de lui. Et ça, il y a quelque chose dans cette idée de réconciliation qui, tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin d'être réconcilié si on n'a pas de conflit, ça va? Faites pas de séance de réconciliation avec des gens qui n'ont pas de conflit. Vous pouvez juste profiter de cette amitié, de cette relation, de ce qui se passe là. Mais l'idée qu'il y ait cette image de la réconciliation nous prouve qu'il y avait vraiment quelque chose qui... il y avait une dispute, il y avait un conflit, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Et ce qu'on peut comprendre, c'est la chose suivante. Et là, je ne suis pas en train de dire que vous devez vous réconcilier avec tout le monde. Il y a des gens avec lesquels il ne faut pas se réconcilier. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas repentis du tout de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils vous ont fait subir. Si quelqu'un a abusé physiquement de vous, vous n'allez pas le voir pour dire « j'aimerais ça être réconcilié avec toi », S'il te plaît, peux-tu me faire mal encore? C'est correct, ça? On est sur le même terrain ici, là? On comprend? Mais voici ce qui est l'image de la réconciliation. C'est dire, c'est comme si Dieu est là et dit, je reconnais qu'il y a un conflit. La Bible nous dit qu'on était ennemis de Dieu. Fait que quand on est ennemi de quelqu'un, habituellement, c'est parce qu'il y a un conflit, une dispute, quelque chose qui ne marche pas. Okay? Et puis là, l'œuvre à la croix, c'est Jésus qui dit, regarde, de mon côté, là, j'ai tout fait pour que nous puissions être réconciliés. C'est-à-dire que j'ai tout accompli pour que mes bras, il n'y ait aucune ambiguïté, qu'ils sont grands ouverts pour toi. Ça, c'est la réconciliation, c'est ce qui se passe à la croix. Quand Dieu vient à la croix, il est en train de dire, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que ce péché, pour que cette offense-là, elle ne soit pas un obstacle pour qu'on puisse être réconciliés. Mais maintenant, si on regarde, depuis le début, tout est à propos de Dieu. Et là, ici, vient intervenir quelque chose qui devient notre décision. Notre décision, c'est de dire, OK, si Dieu a tout pourvu pour être réconcilié, il veut avoir cette relation-là avec moi, il veut qu'on ait une relation personnelle. La seule chose qui me reste à faire, c'est un terme qu'on entend souvent, c'est l'idée de « j'ai besoin de me repentir de mes fautes pour m'approcher de mon papa ». J'ai besoin de me repentir de mes péchés pour que cette réconciliation puisse être des deux côtés. Est-ce que vous avez déjà essayé de vous réconcilier avec quelqu'un qui ne se repentait pas de ce qu'il avait fait en disant « j'ai rien fait, voyons donc, t'hallucines, c'est quoi ton problème? » Est-ce que vous savez que lorsqu'il y a un des deux parties qui est dans cette situation-là, la réconciliation est impossible? Ça va? On vit les mêmes relations, vous et moi, là, c'est normal ça? Mais c'est la même chose avec Dieu, c'est que Dieu finalement a tout pourvu pour la réconciliation et nous, ce qu'il nous demande de faire, c'est l'idée de se repentir de nos péchés et de placer notre confiance en lui parce que aussitôt qu'on fait ça, la réconciliation complète devient absolument possible. Amen! Et les frictions qu'il pouvait y avoir sont maintenant résorbées. On est déclaré non coupable, on est déclaré pardonné. Et maintenant, on peut être appelé ami de Dieu. Parlez d'un terme extraordinaire, ça. Je peux être l'ami de Dieu parce que Christ a tout accompli à la croix pour que je puisse être réconcilié avec lui. Et je passe d'ennemi de Dieu à ami de Dieu. Je passe de profanateur à adorateur. Je passe de condamné à pardonné. Je passe de rebelle à Dieu à collaborateur dans l'œuvre de Dieu avec lui. C'est pas extraordinaire, ça? Ça, c'est la réconciliation, mes amis. C'est la réconciliation que Jésus nous permet d'avoir. Jésus déclare sur ta vie ce matin que tu es ami. Jésus déclare à cause de la croix que tu es pardonné, que tu es enfant de Dieu. On l'a chanté, on est enfant de Dieu, il est notre papa. C'est ce que Jésus déclare sur ta vie à travers la croix. On a une nouvelle identité en lui. On a une nouvelle identité en lui. Et cette image-là que j'essaie de vous partager tout à l'heure du père qui attend son enfant qui revient à la maison, ça vous fait penser, si vous avez lu les évangiles une fois, c'est une image qui a marqué l'imaginaire, c'est cette histoire du fils prodigue. Et l'histoire du fils prodigue, vous savez c'est quoi? C'est l'histoire du salut, hein? En tout cas, relisez-la, vous allez le voir tout de suite. Il y a cette idée que le fils part avec l'argent du père, se met à tout dépenser, faire des niaiseries, il fait tout ce que son père lui a pas enseigné. Il s'en va sa rumba, comme on dit en québécois et probablement dans d'autres langues aussi. Et puis, il fait n'importe quoi. Jusqu'à ce qu'un jour, ils disent, il réfléchit en lui-même. Hein. Il y a comme un... Les traductions bibliques vont dire des choses différentes, mais il revient en lui-même, il s'est mis à réfléchir. Il y a comme... Puis il s'est dit, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mon père a tout ce qu'il faut. Puis moi, je suis dans un champ, dans misère, parce que j'ai fait tous les mauvais choix. Et si je retournais à la maison? Et si je retournais dans la maison de mon père? On lit ça dans Luc 15. Et puis, la réponse du père est absolument magnifique. le père aurait eu tous les droits de dire « Mon fils, quelle a été ta réflexion? T'en es où maintenant? As-tu un plan de remboursement de l'héritage dont je t'ai fourni déjà? » Hein, on pourrait poser des questions, hein? Puis là, on s'imagine comme parents physiques que ça nous arrive, puis « Ouais, j'y aurais peut-être pensé à celle-là. » Et le texte va nous dire quelque chose de complètement différent, quelque chose qui est anticulturel de cette époque-là. Les personnes qui étaient avec plus d'expérience ne couraient jamais. Et puis là, l'image qu'on voit, c'est le père qui au loin voit son fils. Et s'il le voit au loin, c'est parce qu'on s'imagine qu'il l'attendait dans le cadre de porte. Et là, tu dis, « Oh, si mon père m'attend dans le cadre de porte avec le pied qui fait ça comme ça, oi, 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 je suis pour un mauvais quart d'heure, hein? C'est bon? Mais je sais qu'ici, il n'y a aucun papa qui tape du pied, fait qu'on est correct, on est safe. On est dans un environnement sécuritaire. Mais ce qui se passe, c'est qu'on devine à travers le texte qui est dans le cadre de porte et qui attend. Il attend de voir si son fils un jour va revenir. Et quand il le voit au loin, plutôt que d'attendre que son fils se rende jusqu'à lui, la parole va nous dire qu'il va se mettre à courir jusqu'à lui. Le père se met à courir, un geste qui est complètement hors norme au niveau culturel. Les gens plus âgés ne font pas ça. C'est déshonorable pour eux. Ce n'est pas juste une question d'énergie. Ce n'est pas une question qu'ils ne sont pas capables. Ils sont capables de courir. Ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que c'est déshonorable de faire ça. Alors, ils ne le font jamais. Et là, c'est le père qui décide de réduire la distance entre les deux. Et je ne sais pas si vous voyez dans l'image de la réconciliation, le fait que la croix est Dieu qui vient pour, qui prend les devants pour raccourcir la distance entre nous et lui. Et il ne le fait pas de reculons, il ne le fait pas en tapant du pied, il ne le fait pas en « Oh, misère, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller le voir. Je ne sais pas s'il va retrouver à la maison. » Non, il ne le fait pas comme ça. Il le fait avec une conviction profonde que ce qui est la meilleure chose à faire ce jour-là, c'est de courir dans les bras de son fils et de le restaurer et de déclarer sur sa vie qu'il est pleinement membre de la maison, qu'il est pleinement membre de la famille, qu'il est non pas un ennemi, mais qu'il est un ami. C'est l'œuvre de la réconciliation. Et vous savez quoi? Cette image du Père qui court vers, ça ressemble à la croix, ça. Hein? Ça ressemble à la croix. Jésus qui se dépouille de lui-même, qui se dépouille de sa divinité, hein? qui laisse la gloire du ciel pour venir sur terre, pour faire un geste de rapprochement avec les hommes. Et la seule chose qu'il nous demande de faire, c'est de se repentir et de dire, « Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je veux placer ma foi en toi. » Et ça, c'est l'œuvre de la réconciliation. Alors, peut-être que ce matin, dans ton cœur, tu es comme, « Est-ce que je suis vraiment réconcilié avec Dieu? Je me sens loin, je me sens pas bien. La maison du Père est-tu encore ouverte pour moi? J'ai tellement fait de niaiseries. Pasteur, si tu savais tout ce que j'ai fait. » Ben oui, il y en a d'autres qui ont fait 1000 excès de vitesse. Tu en as peut-être fait plus. Ça a dû te coûter cher. Si tu savais ce que j'ai fait, jamais Dieu pourrait me pardonner. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est que je crois que Dieu veut vraiment partager son cœur de réconciliation avec chacun d'entre nous. Et j'aimerais qu'on puisse faire ça même tout de suite. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux à ce moment-ci. Le message n'est pas fini. Les musiciens ne sont pas obligés de venir me rejoindre tout de suite. Mais peut-être que ce matin, tu te sens loin de Dieu. Puis peut-être que l'ennemi a réussi à dire que tu étais vraiment juste coupable. Peut-être que tu penses que Dieu est tellement loin qu'il ne s'intéresse pas à toi alors qu'il est dans le cadre de porte attendant que tu reviennes à la maison. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais placé leur confiance en Dieu, qui ne sont jamais passés par cette idée de « Hey, Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes, je te demande pardon, je me repens de mes fautes et je décide de courir dans tes bras comme toi, tu cours vers moi. » Et je veux donner cette opportunité-là. Si ce matin, il y a des gens qui veulent donner leur vie à Christ, qui veulent être réconciliés, avoir une relation vivante avec le Seigneur, je t'invite à, devant le Seigneur, de le faire, de dire, « Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je me suis éloigné, mais aujourd'hui, je rentre à la maison. Et ça, ça s'adresse même à des chrétiens qui sont peut-être chrétiens depuis 20 ans, 25 ans, mais à cause de toutes sortes de circonstances, ils ne sont pas dans la maison du Père, ils sont éloignés. Ils ne sont pas en relation directe avec Dieu. Il y a comme leur culpabilité semble les en éloigner. Mais je crois que Dieu, ce matin, veut partager son cœur de réconciliation en disant, « Et si tu faisais juste te repentir devant moi? Et si tu t'approchais? » On pourrait repartir notre relation et avoir une relation vivante l'un envers l'autre. Je ne sais pas si c'est votre cœur ce matin, mais si c'est votre cœur, je vous invite à prier avec moi. Seigneur éternel, je reviens à la maison. Seigneur éternel, je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur éternel, je considère que la meilleure chose que j'ai à faire aujourd'hui, c'est d'être connecté en relation avec toi. Et Seigneur, je veux te remercier qu'à la croix, tu as enlevé tous les obstacles pour que je sois en pleine relation avec toi. Alors ce matin, je t'offre mon cœur, je t'offre ma vie. Je t'offre, Seigneur, ces situations qui me troublent et je rentre à la maison. Je rentre à la meilleure des maisons, la maison où est-ce qu'on peut dire « Papa » tout fort et on sait qu'il y a de l'amour dans la maison. Seigneur éternel, reçois nos cœurs ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière-là peut-être pour une première fois, je vous encourage à peut-être venir me voir après la réunion, en parler avec la personne qui vous a invité, parler avec un membre de l'équipe ici. Parce que vous savez quoi? Jésus déclare sur ta vie, « Je souhaite que tu sois ami de Dieu. » Vraiment, vraiment. Et cette vie chrétienne-là, vous savez, ce n'est pas l'idée de venir à l'église pour venir à l'église. Cette vie chrétienne-là, c'est d'avoir une relation vivante avec celui qui nous a créés. C'est de toute beauté, c'est extraordinaire. Et c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous ici, que vous soyez dans votre voiture, que vous soyez assis sur les bancs, que vous soyez à la maison, c'est le désir le plus cher. Tout ça nous vient de l'initiative de Dieu à la croix. Si ce n'est pas de la croix, cette opportunité-là ne se présente pas. Mais à cause de la croix, tu as la possibilité de rentrer à la maison. Je veux vous présenter un petit tableau pour ceux qui aiment les images, qui aiment les synthèses, ceux qui ont un petit port d'enseignant dans le nez ou d'étudiant. Et il y a comme ces quatre images-là qu'on a vues dans les dernières semaines. Ces quatre images qui nous montrent qu'est-ce que Christ a fait à la croix. Et la première image, on le voit, hein, c'est l'aspect de l'expiation, de la propitiation, c'est l'idée que Dieu enlève la colère de sur nous. La rédemption, c'est le rachat de cette rançon-là de notre captivité. La justification qu'on a vue ce matin, c'est le renversement de notre culpabilité. Puis la réconciliation, l'adoption, c'est le renversement de notre hostilité. Mais tout ça nous vient de l'initiative de Dieu. Tout vient de Dieu. Qu'est-ce qu'on a besoin comme foi? C'est la foi qu'il est l'agneau de Dieu, le sacrifice parfait. C'est la foi qu'il a vraiment payé le prix pour moi. C'est la foi qu'il m'a libéré sans condamnation. C'est la foi, la repentance de mes péchés au niveau de la réconciliation d'option. Et on voit le rôle de Jésus à la croix. Jésus, dans l'expiation, qui est Jésus comme sacrifice. Dans la rédemption, Jésus qui est comme le sauveur. Jésus, dans la justification, qui est notre substitut, celui qui rentre à la cour et qui prend notre place au banc des accusés. Et dans la réconciliation, c'est Jésus comme Père. Et tout ça nous mène à une valeur fondamentale. Si on reste dans la transaction, on perd quelque chose. Mais si on voit la croix, la lumière de l'amour, là on fait comme « Oh, wow! » Et c'est exactement ça que je veux vous montrer. C'est que dans ces quatre images-là, on voit l'amour malgré la gravité du péché. L'amour malgré la répétition de l'offense. L'amour et la grâce devant notre juste peine. L'amour qui nous invite dans sa famille. Et là, c'est comme « Oh, wow! » La croix est la révélation la plus, je dirais, la plus profonde de cet amour de Dieu pour chacun de nous. Et Je ne peux pas finir cette série-là sur la croix sans, de un, parler de l'amour de Dieu, ce que je suis en train de faire, mais deux, en disant que tout ne finit pas là. Parce que quand Jésus est sur la croix, il y a quelque chose qu'il va dire juste avant de partir. Il va dire trois mots. « Tout est accompli ». En araméen, c'est « tétélestai ». Ça veut dire vraiment « tout est accompli jusqu'à perfection ». Tout est accompli. Et là, ce qui va se passer, c'est que quand Jésus meurt, je remets mon esprit entre tes mains, puis la Bible nous dit qu'il va expirer dans le sens qu'il va mourir là. Tout d'un coup, le voile du temple se déchire, les tombeaux s'ouvrent, des gens ressuscitent, se promènent dans la ville. Il y a quelque chose de complètement puissant qui se produit dans cette ville-là. Vous pouvez lire dans Matthieu 27 à Jérusalem. Et à la vue, il y a un tremblement de terre qui se produit au moment où est-ce que Jésus expire finalement. Et puis, il y a même cet officier romain-là qui voit tout ce qui est en train de se passer, puis il capote en disant la chose suivante dans Matthieu 27 et 54. Il va dire, à la vue du tremblement de terre, ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dire, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. La croix est le début d'une œuvre puissante qui va se révéler, entre autres, dans la résurrection. Parce que trois jours après, la mort ne pouvait le retenir. Et Jésus va ressusciter d'entre les morts, surprenant même ses disciples qui l'avaient entendu 20 fois. Il va ressusciter d'entre les morts. Et la croix est cette espèce d'événement puissant, mais qui nous amène à une vie dans la puissance de Dieu. La croix n'est pas un événement unique qui reste là. Au contraire, après ça, c'est la résurrection, puis après ça, c'est la vie avec l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts qui vit en nous. Alors, on n'est plus dans juste, OK, wow, la croix est un événement historique incroyable qui nous ouvre les portes, qui nous rapproche de Dieu. Mais après ça, on est appelé à vivre dans cette puissance de Christ qui est ressuscité d'entre les morts après trois jours. Romains 8, versets 11 à 16. Écoutez bien ceci, un petit défi pour chacun de nous, OK? « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, » ça c'est réalité si vous avez... Si vous êtes repenti de vos péchés, vous avez placé votre confiance en Jésus, le « si » là, il est réel. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre propre nature, pour nous conformer à ses exigences. Si on vit en nous conformant à notre propre nature, on va mourir, mais si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen! Est-ce que je peux nous lancer le défi de vivre en nouveauté de vie avec Jésus, avec l'Esprit Saint qui est notre puissance? Est-ce que je peux vous mettre au défi de délaisser notre nature propre pour revêtir vraiment ce que Jésus nous a acquis à la croix? Est-ce qu'on peut arrêter de vivre comme si on était toujours coupable alors que Jésus déclare sur notre vie qu'on est non coupable? Est-ce qu'on peut arrêter de vivre comme si on était les ennemis de Dieu alors que Jésus déclare sur notre vie que nous sommes amis de Dieu? Amen! Est-ce qu'on peut vivre une relation avec Dieu comme s'il était notre papa? Parce qu'il l'est! Là, peut-être qu'il y en a ici, vous avez vraiment un mauvais témoignage de ce qu'est un papa. Bien, j'aimerais vous dire que notre papa dans le ciel n'est pas comme les autres papas. Notre papa n'est pas comme les autres papas. C'est difficile à dire, là, mais ça fait des papa, 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 papa. Notre papa n'est pas comme les autres papas. Puis ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut vivre notre vie, non pas dans la crainte, pas dans un esprit d'esclavage, comme le texte va nous dire, mais d'être de ceux qui sont capables de dire et de crier « Abba », ça c'est un mot qui est comme un mot affectueux pour dire « papa ».« Abba, papa, père ». Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Il ne faut pas que je m'énerve trop, là, sinon ça va être trop long. Mais je vous ai dit tantôt, et je vais finir avec ça. l'ennemi de nos âmes attaque souvent ce que Christ a acquis à la croix, ce que Christ a fait à la croix. Et je vais vous dire la chose suivante. L'Esprit essaye de nous rappeler qu'on est coupable, qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas capable. Mais Jésus déclare sur ta vie que tu es justifié et non coupable. L'ennemi essaie de dire que tu n'as pas de valeur, que tu es bon à rien. Jésus déclare sur ta vie que tu as une grande valeur parce qu'il a payé une rançon, la plus chère des rançons qui a jamais été payée dans l'histoire du monde. Jésus déclare ça sur ta vie, à la croix. L'ennemi essaie de dire qu'il ne t'aime pas, mais Jésus déclare sur ta vie que tu es bienvenu dans la maison du Père. L'ennemi tente de dire, penses-tu vraiment que Dieu peut te pardonner? Penses-tu vraiment qu'il va te pardonner? Jésus déclare sur ta vie, j'ai tout payé! L'ennemi essaie de nous dire, est-ce que tu as vraiment ta place avec Dieu? As-tu vraiment ta place dans l'Église? Puis Dieu déclare sur ta vie, j'ai signé les papiers d'adoption. Tu es mon fils, tu es ma fille, tu es comme la prunelle de mes yeux. Et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, que ce soit les tribulations, que ce soit n'importe quoi, la mort, la vie, tout ce qu'il y a entre les deux, rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté un amour parfait à la croix. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Le pasteur est énervé ce matin, mais... croyez-moi, il y a quelque chose à être énervé dans l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. Il y a quelque chose à être énervé dans ce que Dieu déclare sur ta vie et sur la mienne. Maintenant, vous savez, la vie chrétienne, c'est dire, hey, je comprends toutes ces vérités-là, ça fait bien du sens, je le sais, c'est même biblique. Et puis là, de l'autre côté, il y a ma vie. Le pasteur Paul avait l'habitude de dire ça. Voici, je comprends que je suis aimé, que je suis pardonné, que je suis racheté, que je suis justifié, que je suis tout ça. Mais quand je regarde ma vie, c'est comme si je le vivais pas parfaitement tout le temps. Je suis pas tout seul comme ça. Mais vous savez quoi? La prière d'un enfant de Dieu est la suivante. Seigneur, peux-tu rassembler ces deux choses-là? Oui, je le crois. Ma vie est peut-être pas là encore. Mais Seigneur, peux-tu me permettre que non seulement ce que je crois, je le crois, mais que je puisse vivre ce que Christ a accompli pour moi. Et il y a des fois où est-ce que la différence entre les deux, c'est d'arrêter de croire les mensonges du diable puis de commencer à croire Dieu. Amen. Il y a des fois où est-ce que j'aimerais vous dire qu'il faut prendre Dieu au mot. Parce que quand on regarde notre vie, on dit, ben c'est vrai que j'ai de l'air coupable, j'ai fait encore telle niaiserie hier. Est-ce qu'il a raison? Non! Je suis pleinement pardonné en Jésus. Je me repens de mes péchés, pleinement réconcilié. J'avance dans ma relation avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Seigneur éternel, on veut te remercier ce matin. Oui, pour cette série sur la croix, mais bien plus pour ton œuvre à la croix, Seigneur. Cette œuvre, Seigneur Jésus, qui nous fait passer complètement dans une nouvelle identité en toi. Alors, Seigneur éternel, je veux te prier pour ton peuple, je veux te prier pour ma propre vie, Seigneur. Que ma vie, Seigneur, soit le reflet de ce que toi, tu déclares sur ma vie, non pas de ce que des gens ont déclaré sur ma vie, non pas ce que l'ennemi a déclaré sur ma vie, mais ce que toi, tu déclares sur ma vie, je veux en faire la chose la plus importante pour aujourd'hui, pour demain, pour mes choix, mes décisions, pour mon avenir, Seigneur, c'est toi que je veux croire aujourd'hui. Et je place ma confiance et je te prie, Seigneur, que chaque frère et sœur puisse placer sa confiance en toi, Seigneur, afin que même s'il y a un écart entre la réalité de ma nouvelle identité et qui je suis présentement, Seigneur, je te prie que ces deux choses-là puissent concorder ensemble pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas orphelins, Seigneur. Tu nous as adoptés pas pour nous mettre dans un coin. Tu nous as adoptés et tu as placé l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, afin qu'on puisse marcher en nouveauté de vie, rempli de ton esprit, Seigneur, victorieux en toi. Alors, Seigneur, je te prie que cette victoire-là à la croix puisse faire de nous des personnes victorieuses en toi. Dans le nom puissant de Jésus, je te prie pour la bénédiction sur chacun. Et merci, Seigneur, pour cette nouvelle identité que nous avons en toi. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Et tous ceux qui sont en accord disent un grand amen et amen et amen. Amen.